bienvenue à tous sur les Idées Libres. C'est Yasser Louatier qui vous accueille depuis la banlieue sud de Paris et je vous remercie de votre fidélité et de choisir ce podcast. On va parler aujourd'hui islamophobie déconfinée. Pourquoi ? Parce que ça a échappé à personne que les musulmans avaient été pointés du doigt dès le début des mesures de confinement. L'extrême droite avait encore une fois balancé des rumeurs sur un traitement de faveur qui favoriserait celles et ceux qu'on appelle les musulmans. On a eu les médias, encore une fois, qui ont joué le rôle d'amplificateur de ces rumeurs et de courroie de distribution entre des blogs d'extrême droite isolés que personne ne connaît en temps normal pour transmettre leur message auprès du gouvernement, à tel point que le gouvernement, en tout cas les ministres successifs qui ont défilé, se sont retrouvés à devoir se justifier. Alors, petit rappel, le confinement, c'était du 17 mars au 11 mai 2020. Et comme je le disais dans le précédent épisode des Idées Libres, Covid-19, fallait-il déconfiner le 11 mai ? Le gouvernement Philippe Macron avait tellement minimisé, mal anticipé et mal géré la crise qu'il avait fallu confiner le pays dans l'urgence pour réduire le nombre de contagions au Covid-19 et pour décongestionner les hôpitaux saturés. Mais alors que les mesures de confinement étaient prononcées et que Macron, chef de guerre face à un virus invisible, on avait déjà circulé sur la non-importance des mesures de confinement dans les 10 quartiers. Alors, celui qui tient les propos, c'est un certain Laurent Nunez, que nous connaissons maintenant, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et qui déclare que le respect du confinement dans certains quartiers n'est pas une priorité. Alors, on peut le voir de deux façons, et les deux sont mauvaises. La première, c'est qu'il y a un traitement de faveur qui concerne les musulmans, et donc ce confinement qui agace, qui irrite les Français, qui veulent sortir et aller en terrasse, petit coucou à ceux qui sont là, hashtag je suis terrasse, on leur dit, vous savez quoi, oui, on va appliquer un confinement pour vous, ça va vous irriter. Et en même temps, vous voyez, certains quartiers, eux, ne devront pas le respecter. Donc déjà, on est en train d'ériger un problème qui n'existe pas. Parce que comme on le voit bien, dans les quartiers, dans les 10 quartiers, DITS, on sait bien que le confinement a été dans l'écrasante majorité respecté et que s'il y avait non-respect du confinement, c'était comme au niveau national. On a eu des personnes qui n'ont pas respecté pour faire un barbecue ou je ne sais quoi. D'autres n'ont pas respecté pour aller skier, comme on l'a vu, je ne sais plus dans quelle station. On l'a vu avec ceux qui n'ont pas respecté le confinement en allant faire leur jogging, en se promenant dans les parcs, en pique-niquant, etc. Donc, le non-respect du confinement était déjà un problème national. Mais, comme toujours, le problème, c'est les autres. Le non-respect du confinement, c'est les autres. Et les autres, c'est bien sûr les musulmans. Et donc, on a Laurent Nunez qui déjà tient ses propos. Le confinement n'a pas à être respecté dans certains quartiers. La première interprétation, c'est bien sûr un traitement de faveur. Dans l'autre, c'est oui, la République est soumise aux islamistes, aux grands frères, aux arabes, aux noirs, etc., qui n'en font qu'à leur tête, et la loi de la République ne s'applique pas à eux. Alors on sait très bien que c'est faux. On sait très bien que dans les quartiers populaires, on a bien vu que, oui, il y a eu quelques personnes qui n'ont pas respecté. Mais comme je le disais à l'instant, c'est comme à l'échelle nationale. On ne peut pas tenir toute une population pour responsable des agissements des uns et des autres. Mais comme toujours, on préfère ethniciser le problème pour en faire une exception, comme quoi, à l'échelle nationale, les Français sont respectueux, mais comme toujours, ces populations minoritaires, elles, ne respectent absolument rien. L'autre interprétation qui pose problème, c'est qu'il y a un virus hautement contagieux, mortel, qui circule, et donc, préserver des vies dans certains quartiers ne serait pas important pour Laurent Nunez. On a forcément... Là, il y a un problème. Donc là, on sait que le confinement a été une mesure d'urgence adoptée parce qu'on n'avait pas dépisté en amont, on n'avait pas testé massivement la population à temps pour éviter ce confinement. Je crois que c'est la Corée du Sud qui n'a pas eu à faire le confinement, je crois, ou Singapour. Et donc là, on a des mesures exceptionnelles pour sauver des vies, mais ces mesures exceptionnelles pour sauver des vies ne s'appliquent pas à certaines populations. Et là, ça en dit long. Ça en dit long sur la relation qu'il y a entre ces élites qui imposent une espèce de lecture raciste des événements. Oui, il y a une politique pour tout le monde, pour sauver des vies, et une politique pour le reste de la population qui, ne compte pas. Et en même temps, on a ce problème de normalisation du deux poids, deux mesures. Pourquoi est-ce que je dis deux poids, deux mesures ? Parce qu'on a non seulement C'est Laurent Nunez qui prend la parole, mais en plus, on a les préfets, on a les maires qui s'y mettent pour aller faire des injonctions auprès des musulmans et leur dire « veuillez respecter le confinement ». On n'a pas vu des préfets et des maires convoquer l'Église catholique, les rabbins ou les pasteurs protestants et je ne sais quoi. Quand on sait qu'en plus, si je prends l'exemple de Mulhouse, une violation... Je ne vais pas dire une violation parce que je crois que le confinement n'avait pas été encore ordonné. Mais on voyait bien qu'aucune précaution n'avait été prise par une église protestante à Mulhouse. 2000 fidèles s'étaient réunis et ça avait déclenché des contagions massives. On n'a pas vu le gouvernement convoquer les pasteurs protestants pour leur dire « Veuillez s'il vous plaît respecter le confinement ». On a déjà eu un précédent avec l'église de Mulhouse. Et donc, vous pouvez être tenu pour responsable pour ne pas transmettre le message aussi bien à vos pasteurs qu'à vos fidèles. Mais là, alors que les musulmans n'ont rien commis encore. Et d'ailleurs, ils n'ont rien commis. N'ont rien fait pour envoyer ou pour laisser croire qu'ils n'allaient pas respecter le confinement. Vous avez déjà des injonctions et même une infantilisation de celles et ceux qu'on appelle les musulmans pour leur rappeler que il faut rester chez soi pour sauver des vies. Tout le monde avait compris qu'il fallait rester chez soi pour, comme on dit, aplanir la courbe des contagions, c'est-à-dire faire en sorte que le nombre de contaminés soit maintenu à un certain niveau pour éviter, ou plutôt pour désengorger les hôpitaux. Alors, ça c'est fait. On continue maintenant avec cette islamophobie permanente pendant le confinement qui laissait croire que les seuls qui ne respectent pas le confinement, c'est les quartiers populaires. Et donc, on a eu les obsessions, bien sûr, de l'extrême droite qui étaient nourries par les agents habituels, on les connaît, je vais même pas les nommer, mais on a eu une note de la DDSP, Direction départementale de la sécurité publique, dans le Calvados, et qui disait, qu'il ne fallait pas intervenir pour faire respecter le confinement en période de mois de Ramadan. Et donc beaucoup se sont dit, oulala, la police encore a peur des quartiers populaires, a peur des musulmans, et donc c'est inacceptable, la République est soumise. Mais la lecture que moi j'ai de ça, lorsque la police envoie une telle note, il faut faire le lien avec ce qui s'est passé en 2005, lorsqu'on a eu une mosquée gazée par les CRS, pendant que les parents priaient, les hommes et les femmes étaient à l'intérieur d'une mosquée, se sont retrouvés aspergés de gaz lacrymogène pendant les prières du Tarawih, c'est les prières surérogatoires appliquées ou pratiquées durant le mois de Ramadan, et pendant lesquelles les mosquées sont bondées de monde. Et donc, vous avez des policiers qui avancent et qui gazent une mosquée. Qu'est-ce qui s'en est suivi ? Bien entendu, une émeute au lendemain de la mort de Ziyed Ebouna. Cette note-là, pour moi, ça ne veut pas dire que la police accorde un traitement de faveur aux musulmans. C'est que je pense que la hiérarchie policière sait à qui elle a affaire, non pas dans ses quartiers, mais avec ses propres troupes. Dans une France où les violences policières sont devenues la norme quotidienne pour des milliers de Français, on a vu les violences policières qui se sont abattues sur les quartiers populaires pendant des décennies, au point que ces quartiers populaires soient devenus le laboratoire de la répression en France. Et cette violence policière depuis des décennies n'est plus le monopole des quartiers populaires, mais a aussi ciblé les travailleurs en province, etc., comme on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes et la violence policière qu'on a vue avec des centaines de vidéos, des centaines de témoignages, les mutilés, les éborgnés. Je me rappelle cette histoire d'un enfant qui a perdu sa main. C'était ahurissant. On a les statistiques de David Dufresne à l'Oplace Beauvau qui s'approche des 1000 signalements. La hiérarchie policière sait qu'elle a des troupes qui sont souvent hors de contrôle, qui vont se faire justice eux-mêmes, qui vont interpréter la loi eux-mêmes et même s'engager dans une espèce de vendetta ou plutôt lancer des expéditions punitives dans certains quartiers. Et donc, quand on a une note du DDSP qui est publiée pour dire « retenez-vous », ça ne veut pas dire que les musulmans sont dangereux et qu'il faut faire attention. Ça veut dire que les musulmans ont déjà été les cibles auparavant et qu'ils n'ont pas la mémoire courte. Ils savent pertinemment que la police est capable de tabasser des mamans, comme on l'a vu dans le 18e à Paris. On sait très bien que la police est capable de gazer une mosquée, comme on l'a vu, comme je vous disais à l'instant, en 2005. Et donc, c'était des mesures de précaution. Parce que je pense que si la hiérarchie policière savait qu'elle avait des troupes disciplinées, respectueuses des lois républicaines et respectueuses des citoyens, on n'aurait pas à leur dire « allez-y, mollo » dans ces quartiers-là. Néanmoins, on n'a pas eu de préfet, on n'a pas eu de ministre qui ont convoqué les responsables d'associations parisiennes, les responsables de quartiers au sein de parisiens. On n'a pas eu de convocation ou de visioconférence avec des comités de résidents dans tel ou tel quartier des grandes villes, des quartiers bien sûr qui ne sont pas ce qu'on appelle des quartiers populaires, plutôt les quartiers bobos, huppés, etc. Personne n'a été convoqué pour qu'on leur demande de respecter le confinement et de transmettre les directives du gouvernement. Là, il n'y a eu personne. Par contre, on a même des visioconférences qui ont été organisées par les préfets avec la star, que je ne citerai pas, l'imam du CRIF, qui a été invité pour transmettre le message alors que personne ne l'écoute. C'est lui qu'on invite pour transmettre à ces musulmans les directives du gouvernement. Et là, on continue. On a ces polémiques qui continuent avec le passage à tabac des différents jeunes des quartiers populaires. On a vu cette personne qui a été retrouvée dans la Seine, traitée de bico. On a eu ce jeune tabassé dans les Ulysses. Et la liste continue. Et les vidéos témoignages qui vous montrent des policiers qui agressent gratuitement des personnes en bas de chez elles. On sait que cet excès de zèle des fonctionnaires de police ne s'est jamais exprimé, par exemple, lorsqu'on a vu, comme je le disais tout à l'heure, des personnes qui partaient skier en plein confinement. Des personnes, comme on l'a vu, cette dame qui est surprise en train de bronzer au bord d'une plage à Nice. Et moi, ce qui m'avait encore plus sidéré, c'est que cette personne-là est en train de bronzer à demi nu sur la plage. Et on lui pose la question, dites-moi donc pourquoi est-ce que vous ne respectez pas le confinement et ça ne vous dérange pas, etc. Et elle répond, ni deux, c'est complètement con ce truc, etc. La personne a-t-elle été verbalisée ? À ce que je sache, non. Est-ce qu'on a eu un excès de zèle des policiers lorsque les habitants du 18e se sont rassemblés pour danser au son de Dalida, « Laissez-moi danser » ? Non, cette police n'a pas montré son excès de zèle et sa volonté de faire respecter les mesures de confinement. Ces mesures de confinement avaient été respectées par les musulmans. Mais comme toujours, il a fallu créer un problème musulman comme pour dire « Le problème, c'est pas nous, c'est eux ». On prend une courte pause musicale et on revient dans deux minutes. A tout de suite. Pour la pause. Merci d'avoir choisi les idées libres, c'est toujours Yasser Louati qui vous accueille. On va revenir aux institutions religieuses, parce que c'est celles qui étaient ciblées par les autorités et les médias, et quand je parle des autorités religieuses, je parle des institutions musulmanes. On sait que toutes ont officiellement adhéré au confinement, ont fermé les lieux de culte. Ils se sont astreintes à un devoir de solidarité avec le reste du pays. Ça a été documenté. Maintenant, j'aimerais parler d'autres institutions religieuses qui, elles, non seulement n'ont pas respecté le confinement, mais en plus ont défié les autorités sans même que ça crée une polémique. Alors, je mentionnais avant la pause cette église protestante qui n'avait pris aucune précaution et qui est aujourd'hui accusée d'avoir été un des foyers principaux de propagation en France. C'est l'église Portes Ouvertes à Mulhouse. Alors, pour commencer, accuser cette église d'avoir été le foyer principal de contagion, sincèrement, c'est faux. Il faut arrêter avec ça, il ne faut pas chercher un bouc émissaire. Le premier responsable de la propagation du virus, c'est le gouvernement, encore une fois. J'ai déjà fait le bilan tout à l'heure avant la pause, et je le faisais déjà avec pendant l'épisode « Fallait-il déconfiner le 11 mai ?» On sait que Macron et son gouvernement ont réagi en retard, ont minimisé, etc. Soit. Maintenant, s'en prendre à une église pour lui faire porter la responsabilité, je trouve ça profondément injuste. Quant à celles et ceux qui en profitent pour envoyer et proférer des menaces de mort, là, vous franchissez une ligne jaune. Vous n'avez pas à faire ça. Ce n'est pas à vous de demander des comptes. S'il y a une justice dans ce pays, les responsables seront jugés s'il le faut. Maintenant, revenons à cette histoire de propagation. Déjà, pour commencer, tenir cette église pour responsable, comme je le disais, est une preuve de mauvaise foi. En règle générale, et on le sait comme toujours, les premiers foyers de propagation lorsqu'il y a épidémie, ce sont les aéroports. Pourquoi ? Parce que c'est là que les gens entrent dans le pays et c'est là que les premières contaminations, ont lieu. Et ce n'est pas pour rien que, pour moi qui suis moi-même, ou qui était PNT, personnel navigant, technique et le reste du personnel du transport aérien, on sait que ce monde-là est particulièrement exposé lorsqu'il y a une épidémie. Et donc, on sait que le gouvernement a rapatrié des Français d'étrangers depuis la Chine sans aucun contrôle. Aucun. On n'a eu aucun contrôle ni pour monter à bord des avions, ni à la descente, ni même dans le terminal. Il n'y a eu aucune mise en quarantaine et ce n'est pas un hasard. C'est le 95 lui-même s'est retrouvé être un foyer de propagation du virus. Donc, ces aéroports-là sont bien entendu sous la responsabilité du gouvernement. Ce n'est que maintenant qu'on a eu quelques mesurettes appliquées dans les aéroports. Ça veut dire que pendant tout le confinement, on n'a rien vu comme mesure pour désinfecter les aéroports et du moins former le personnel aéroportuaire à la gestion post-confinement. Maintenant, on va revenir aux organisations religieuses. On voit bien que leur responsabilité est caractérisée. Alors, pour commencer, plutôt pour reprendre, le mépris de responsables religieux envers la science n'est pas quelque chose de spécifique à une religion. On sait que ça transcende les religions. On a les évangélistes américains qui nous ont abreuvé de thèses conspirationnistes, comme quoi c'est un complot anti-américain, comme quoi c'est le bon Dieu qui punit les non-chrétiens, etc. On a eu des pasteurs évangélistes qui vendaient leurs potions magiques et même des messes anti-Covid avec plusieurs centaines de personnes. Et on avait cette espèce de clown qui s'appelle Kenneth Copeland, que je connais parce que quand j'étais en formation pour être pilote, j'étais au Texas et je survolais régulièrement son aéroport. Bref, je ferme la parenthèse pour ceux qui veulent en savoir plus sur Kenneth Copeland. Donc, ce qu'a fait l'église de Mulhouse n'est pas différent de ce qu'a fait, par exemple, en tout cas, du moins, n'est pas aussi grave que ce qu'ont fait les autres. Pourquoi ? Parce que l'église de Mulhouse, elle, n'a pas prétendu guérir le Covid à base de messe. En tout cas, jusqu'à maintenant, je ne le sais pas et j'en suis pas informé. Et donc, on a aussi un chiffre qui s'approche des 100 000 victimes aux États-Unis, en partie à cause des évangélistes et des pasteurs protestants sur place. On l'a vu aussi au Pakistan, avec des imams qui ont ouvertement défié le gouvernement pakistanais et qui ont maintenu leur mosquée ouverte pendant le mois de Ramadan. On l'a vu aussi avec les communautés juives orthodoxes de New York, Anvers, en Belgique ou Milan, où vous aviez des rabbins qui ouvertement disaient que le confinement n'avait pas lieu d'être et qui exprimaient un profond mépris pour la science. Et donc, il y avait une telle mise en danger des fidèles que sincèrement, j'exprimais sur Twitter, À mon avis, ces personnes-là sont plus préoccupées de leur influence sur leurs fidèles que de préserver leurs fidèles et de les protéger d'un danger vital. Maintenant, le 27 février, on a l'église porte ouverte de Mulhouse qui est restée ouverte et s'est retrouvée être un foyer de propagation du virus. Ça, on le sait. Maintenant, est-ce qu'on a eu une levée de bouclier du gouvernement vis-à-vis des églises protestantes pour qu'elles tiennent leurs troupes et évitent que les églises évangéliques soient ouvertes? On n'a rien vu. Lorsque maintenant vous avez, alors là, je vais citer un exemple encore plus flagrant, vous avez une église à Saint-Nicolas-du-Chardonnay qui tient une messe clandestine, une messe de Pâques, et que lorsque la police s'y rend, que fait la police? Elle prend peur et quitte les lieux à la demande du préfet qui lui demande de ne pas intervenir. Est-ce qu'on a eu des thèses conspirationnistes sur l'influence de l'Église qui est telle que la police ne peut rien faire? Alors d'un côté, on fait un procès aux musulmans alors qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont encore rien fait, le confinement vient de commencer. On leur fait un procès pour leur dire « Vous êtes susceptibles de ne pas respecter le confinement, vous êtes donc déjà responsables des mesures sanitaires qui ne seraient pas respectées. » Et en parallèle, vous avez une église qui défie ouvertement les mesures de confinement, et là, rien. Nada, walou, on n'entend que dalle. Personne n'a dit, il est quand même inadmissible qu'une église puisse s'organiser, tenir une messe en pleine mesure de confinement. Là, on n'a rien vu. Donc d'un côté, vous avez des gens qui n'ont rien fait et qui sont accusés. De l'autre côté, vous avez des gens qui ont fait et qui ne sont pas accusés et encore moins tenus pour responsables. Alors, ce qu'il faut comprendre de cette surenchère islamophobe qui a été maintenue tout au long du confinement, c'est que personnalité politique et personnalité médiatique s'identifie aux réels violeurs du confinement, s'identifie aux personnes qui, d'un côté, le refusent et le revendiquent. On a même vu des personnes qui militaient contre le confinement. Et donc, pour se rassurer et pour ne pas avoir à s'identifier avec des gens mais qui, ouvertement, sont en infraction, il faut créer un autre problème et dire que, ben, puisqu'on ne s'identifie pas aux musulmans, on va faire en sorte que ce soit eux qui soient érigés en responsables du non-respect des mesures de confinement. Et ça a même permis un retour sur la scène médiatique d'un certain Gérard Collomb. Enfin, on se demande ce qu'il fait encore en politique, tellement sa carrière est derrière lui, tellement il est plus en âge de faire de la politique. On l'a vu accuser les commerces musulmans qui ne seraient pas respectueux des mesures de confinement. On a même eu ce médecin, entre guillemets, qui vient chez Morandini et qui dit « Ah oui, cracher, il faudrait l'éviter, mais malheureusement, les musulmans crachent pour des raisons religieuses et c'est compliqué à faire appliquer. » Mais de quoi parle ce médecin? Des musulmans qui doivent cracher pendant le mois de Ramadan pour des raisons religieuses? Et ça passe crème à une heure de grande écoute en direct à la télé. Et personne ne se dit, franchement, là, on abuse. Et malgré ça, ce soi-disant médecin a tenu ses propos. D'ailleurs, on ne voit pas l'objectif de tels propos. Qu'est-ce que ça vient faire dans la conversation si ce n'est que ce médecin tenait à faire passer des idées nauséabondes qui concernent celles et ceux qu'on appelle les musulmans et contribuer à cette surenchère islamophobe du confinement et continuer à hurler avec les loups? Comment est-ce qu'on se rappellera de ce médecin? On dira « Ah oui, le médecin qui a dit que les musulmans crachaient pendant le mois de Ramadan. Ben » Franchement, bravo. Ça veut dire que les musulmans sont constamment en procès alors qu'ils n'ont encore rien fait. Donc c'est soit le procès d'intention, soit c'est le procès par procuration. Et à aucun moment on se dit « Tenons-nous-en au fait et voyons qui a réellement mis en danger la population. » Donc maintenant, la question qui est posée, que doivent faire les musulmans? Les musulmans, encore une fois, par un manque d'organisation flagrant et un manque de solidarité, se retrouvent éparpillés, à tel point que très peu ont réagi lorsque la mosquée d'Aubervilliers a quand même reçu la visite des policiers qui étaient venus s'assurer que la mosquée était bien fermée. Et là, ça me renvoie encore une fois à l'état d'urgence, lorsqu'on n'a pas vu de solidarité entre les organisations musulmanes, entre les représentants du culte musulman, on n'a pas vu de solidarité avec les mosquées qui avaient été saccagées par la police et la gendarmerie. Le message qui est envoyé aujourd'hui, c'est que les musulmans sont toujours la communauté suspecte et en tout cas la communauté qui est toujours tenue pour responsable des problèmes de ce pays. On fait une courte pause et je reviens à vous d'ici quelques minutes. A tout de suite. Vous êtes toujours sur les idées libres de Yasser Louati, troisième partie et conclusion. Revenons maintenant sur la communication du gouvernement en ce qui concerne le plan de déconfinement. Le 7 mai dernier, on a Édouard Philippe et Christophe Castaner qui dévoilent leur plan de confinement et les détails conséquents. On voit une chose apparaître sur les réseaux sociaux, on demande et on recherche, et on voit que Édouard Philippe annonce la réouverture des lieux de culte à partir du 29 mai. Déjà, moi, l'annonce pose problème. On sait que tous les lieux publics sont encore fermés. Les stades, les discothèques, les restaurants, les salles de sport, là où il y a du monde, on tend à fermer ces endroits-là. Pourquoi ? Parce que quand vous rassemblez du monde, forcément, vous prenez le risque qu'il y ait propagation du virus. Et en plus, on a eu un confinement plus ou moins respecté, on le sait, mais surtout une gestion calamiteuse du début jusqu'à maintenant, et qu'on craint la résurgence, ou plutôt l'apparition d'une seconde vague de contagion qui pourrait être pire que la première. On se demande, mais pourquoi réouvrir les lieux de culte ? Si tous les lieux publics sont fermés, pourquoi les rouvrir ? Or, il s'est avéré que l'épiscopat catholique a fait pression sur Édouard Philippe. Imaginez-vous un instant qu'une organisation musulmane fasse pression sur le Premier ministre. Et cette fois-ci, l'épiscopat catholique demande une dérogation pour ouvrir les églises et célébrer la Pentecôte. Non, mais ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'on est en pleine crise sanitaire et les églises demandent une réouverture comme si la dérogation octroyée aux églises allait aussi octroyer une dérogation face à la dangerosité du virus. Et donc, tout comme l'église de Mulhouse a posé problème, aujourd'hui, c'est l'église catholique qui officiellement demande à déroger aux règles pour tenir une messe. Qu'une messe soit tenue, ça pose aucun problème. C'est un pays laïque, chacun a le droit de pratiquer sa religion. Mais dans une crise sanitaire, on est quand même responsable de ses fidèles, mais aussi responsable de son propre environnement, quand on sait qu'une épidémie peut se déclarer à tout moment. Et là, on voit l'Église catholique qui obtient la réouverture de ses églises, alors que Édouard Philippe, pour faire pire, Édouard Philippe non seulement cède à leur demande, et au lieu de leur octroyer le 31 mai, va encore plus loin et leur accorde l'ouverture des églises à partir du 29 mai, en mettant de côté les lieux de culte musulmans qui devraient ou qui auraient dû accueillir les fidèles musulmans pour la célébration de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan et qui donc aura lieu le 23 mai ou le 24 mai prochain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une décision qui a été prise et de manière discriminatoire. Les catholiques ont droit de déroger aux règles, pas les musulmans. Ceci dit, Et maintenant, je vais reprendre ce que je déclarais il y a quelques jours. Quand on prie, on célèbre la vie. On n'est pas là pour exposer les fidèles. Or, même, je pense que le minimum de responsabilité aurait été pour chaque responsable religieux de maintenir les lieux de culte fermés tant que l'épidémie n'était pas totalement sous contrôle. Ça veut dire qu'on évite une propagation du virus qui passerait par les lieux de culte. Les catholiques, en tout cas l'épiscopat catholique, s'est montré éminemment irresponsable, égoïste et idéologiquement aveugle. Il en portera la responsabilité si demain des feuilles de contagion apparaissent à partir des églises. Maintenant, quand bien même, si Édouard Philippe avait octroyé une permission aux mosquées pour ouvrir à partir du 24 mai, je pense qu'il aurait été plus judicieux pour les responsables musulmans de dire « on n'en veut pas de votre dérogation, nous allons rester confinés ». Le but de la religion, en tout cas la pratique de la religion musulmane, ce n'est pas d'exposer les fidèles à la mort ou mettre en danger le reste de la population, mais d'être solidaire et responsable. Et donc, le communiqué de la Grande Mosquée de Paris qui parle de discrimination, pour moi, il est vraiment malvenu. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on veut entrer sur un terrain, une course à la stupidité. Ça veut dire que l'Église catholique met en danger ses fidèles et les mosquées veulent en faire de même. Eh ben non, si l'Église catholique veut s'aventurer sur ce terrain-là, alors qu'ils prennent leurs responsabilités. Alors, faut-il se sentir discriminé ? Moi, je pense que oui. Mais en même temps, il faut se dire, même si on nous avait octroyé l'autorisation, on l'aurait refusé. Mais c'est vrai que islamophobie régnante, discrimination à tout va, Édouard Philippe s'est dit, on va permettre aux catholiques de pratiquer leur culte et pas les musulmans. Maintenant, ce gouvernement-là est éminemment responsable de tout ce qui se passe, mais en plus, il se permet de céder à une pression alors qu'il ne devait pas le faire. La catastrophe sanitaire est loin d'être sous contrôle. Et si des religieux veulent mettre en danger leurs fidèles, cela les regarde. Certes, une telle mesure exclut volontairement les musulmans et illustre l'étendue de l'islamophobie à la tête de l'État. Ceci dit, j'aimerais exprimer ma fierté d'avoir vu les organisations musulmanes non seulement respecter le confinement, mais en plus, malgré les insultes, malgré les procès d'intention, malgré le harcèlement politique et médiatique, ont continué d'exprimer leur solidarité en ouvrant leurs mosquées, non pas pour tenir les offices religieux, mais pour préparer les repas aux nécessiteux et même fabriquer des masques et les distribuer gratuitement. Pour cela, les musulmans méritent d'être salués au lieu d'être cloués au pilori comme on le voit aujourd'hui. Malheureusement, on voit bien que confinement ou non, crise sanitaire ou non, malgré les 25 000 morts et le nombre de morts qui continuera malheureusement d'augmenter, l'islamophobie n'a connu aucune pause. Il y a eu à aucun moment une espèce d'union nationale face à la tragédie. Et je vais être cynique avec vous, malheureusement, on n'a pas vu d'union nationale après les attentats de janvier 2015 et de novembre 2015. On n'a pas vu d'union nationale après les attentats du 14 juillet, lorsque les terroristes ont tiré sur les Français, peu importe leur appartenance religieuse. Quand on a vu que des musulmans et des non-musulmans sont morts sous les coups des terroristes, à aucun moment on a dit « nous ». Et aujourd'hui, malheureusement, on voit que les morts continuent de s'accumuler. Et qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche un bouc émissaire pour ne pas avoir à remplir le temps médiatique avec les questions qui fâchent, c'est-à-dire la responsabilité du gouvernement, son incompétence, son cynisme, sa corruption et son incapacité à gérer le pays au bénéfice de ceux qui y habitent. Lorsqu'on voit que cette communication islamophobe tenue par les pontes du gouvernement et en même temps qui sont relayés par les médias, alors qu'au départ, toutes ces rumeurs sont allumées par la fachosphère et l'extrême droite, qu'on ne me dise pas « la République, c'est pas ça ». Oui, les idéaux républicains, c'est autre chose, mais les réalités républicaines en sont une autre. Et aujourd'hui, Il y a une forme d'islamophobie républicaine tenue par les agents de l'État, tenue par différents représentants de la République qui ne s'en cachent même plus. L'avenir appartiendra à ceux qui se battront non seulement contre l'islamophobie qui continue de diviser le pays et de divertir l'opinion publique sur des problématiques secondaires, alors que les principales sources de préoccupation des Français, et je vais citer ce sondage IFOP publié le 12 mai 2020, les thèmes prioritaires pour les Français alors que le confinement vient de se terminer, c'est d'abord la santé, l'éducation, le chômage, le pouvoir d'achat, la précarité, les services publics et la sécurité. À quel moment est-ce que les musulmans ici sont cités ? On voit bien que, comme disait Jacques Rancière, on a les élites qui vous créent un problème et qui vous l'imposent par le haut. Et malheureusement, il y a toujours un relais vers le bas, j'ai envie de dire dans les égouts, pour en faire un phénomène national. C'était Yasser Louati pour Les Idées Libres qui vous parle depuis la banlieue sud de Paris.